Chapitre 4. Les Anglais au XVIIIe siècle. Berkeley. Philosophie qui considère la matière comme n'existant pas, éminemment idéaliste. David Hume. Philosophie sceptique. L'école écossaise. Philosophie du bon sens. Berkeley. Au sensualiste Locke succéda l'idéaliste effréné, qui a nom Berkeley, anglais comme lui. Il écrivit très jeune, continua d'écrire jusqu'à l'âge de 60 ans et mourut à 68. Il ne croyait pas à la matière, il ne croyait pas au monde extérieur. C'est toute sa philosophie. Pourquoi n'y croyait-il pas? Parce que tous les penseurs sont d'accord sur ceci, que nous ne pouvons pas savoir si nous voyons le monde extérieur comme il est. Mais alors, si nous ne le connaissons pas, pourquoi affirmons-nous qu'il existe? Nous ne savons rien de lui. Or, nous ne devons construire le monde qu'avec ce que nous en savons, et faire autrement, ce n'est pas philosopher, c'est se livrer à l'imagination. Or, que savons-nous du monde? Nos idées et rien que nos idées. Eh bien, disons, il n'y a que des idées. Mais d'où nous viennent ces idées? Les expliquer comme venant du monde extérieur, que nous n'avons jamais vu, c'est expliquer l'obscur par le plus obscur. Elles sont spirituelles. Elles nous viennent sans doute d'un esprit, de Dieu. Cela, c'est possible et n'est pas illogique, et Berkeley y croit. Cette doctrine, aux yeux du bon sens, peut ne paraître qu'une simple fantaisie, mais Berkeley y voyait beaucoup de choses très importantes et très salutaires. Si vous croyez à la matière, vous pouvez ne croire qu'à elle. Et voilà le matérialisme, avec ses conséquences morales, qui sont immorales. Si vous croyez à la matière et à Dieu, vous êtes tellement gêné par ce dualisme que vous ne savez comment séparer la nature de Dieu, et il arrive que vous voyez Dieu dans la matière, ce qui s'appelle le panthéisme. En un mot, entre nous et Dieu, Berkeley a supprimé la matière pour que nous nous sentions immédiatement en contact, pour ainsi parler, avec Dieu. Il tient beaucoup de malbranches qu'on peut dire qu'il ne fait que pousser à l'extrême. Quoiqu'évêque, il n'a pas été arrêté, comme Descartes, par cette idée que Dieu ne peut pas nous tromper, et il répondait que Dieu ne nous trompe pas, qu'il nous donne des idées, et que c'est nous qui nous trompons en leur attribuant une autre origine que lui. Ni il n'a été arrêté comme Malebranche par l'autorité de l'Écriture, qui, dans la Genèse, montre Dieu créant la matière. Il ne voyait sans doute là qu'un sens symbolique, une simple manière de parler à l'usage de la foule. David Hume. David Hume, écossais, plus célèbre, du moins de son temps, comme historien de l'Angleterre que comme philosophe, est cependant très digne de considération à ce dernier titre. David Hume ne croit à rien, et, par conséquent, dira-t-on, il n'est pas un philosophe. Il n'a pas de système philosophique. Il n'a pas de système philosophique, non, mais il est une critique de la philosophie et, par conséquent, il philosophe. La matière n'existe pas. Puisque nous n'en connaissons rien du tout, ne disons pas qu'elle existe. Mais nous, nous existons. Tout ce que nous pouvons savoir de ceci, c'est qu'en nous, il y a une succession d'idées, de représentations. Mais nous, mais moi, qu'est-ce que c'est? Nous n'en savons rien. Nous assistons à un défilé d'images et nous pouvons appeler cet ensemble le moi. Mais nous ne nous saisissons pas comme quelque chose d'un, comme une personne. Nous sommes les spectateurs d'une pièce de théâtre intérieure, derrière laquelle nous ne voyons aucun auteur. Il n'y a pas plus lieu de croire au moi qu'au monde extérieur. Les idées innées. Quant aux idées innées, elles sont simplement des idées générales qui sont des illusions générales. Nous croyons, par exemple, que tout est fait à une cause, ou pour dire beaucoup mieux, que toute chose a une cause. Qu'en savons-nous? Que voyons-nous? Qu'une chose vient après une autre, succède à une autre? Qui nous dit qu'elle en précède? Que la chose B doit nécessairement venir, la chose A étant? Nous le croyons parce que toutes les fois que la chose A a été, la chose B est venue. Eh bien, disons que toutes les fois que la chose A est, et jusqu'à présent, la chose B vient, et ne disons rien de plus. Il y a des successions régulières, j'ignore complètement s'il y a des causes. La liberté et la morale de Hume. Il résulte de ceci que pour Hume, il n'y a pas de liberté. Très évidemment, car quand nous nous croyons libres, c'est que nous croyons nous saisir comme cause. Or, le mot « cause » ne signifie rien. Nous sommes une succession de phénomènes très absolument déterminés. La preuve, c'est que nous prévoyons, et presque toujours juste. Et nous pourrions prévoir toujours juste si nous connaissions complètement le caractère des personnes et les influences qui agissent sur elles. Ce que feront les gens que nous connaissons, ce qui serait impossible s'ils faisaient ce qu'ils voudraient. Et moi, au moment même où je suis absolument sûr que je fais telle chose parce que je l'ai voulu, je vois mon ami sourire et me dire « J'étais sûr que vous le feriez. Tenez, je l'avais mis sur ce papier. » Il me comprenait comme nécessité alors que je me sentais comme libre. Et lui, réciproquement, se croira libre en faisant une chose que, moi, j'aurais parié à coup sûr qu'il ne manquerait pas de faire. Quelle morale peut avoir Hume avec de tels principes? D'abord, il proteste contre ceux qui, de ces principes, concluraient à l'immoralité de son système. « Prenez garde, dit-il spirituellement, comme Spinoza du reste, ce sont les partisans du libre arbitre qui sont immoraux. » Sans doute. C'est quand il y a liberté qu'il n'y a pas responsabilité. Je ne suis pas responsable de mes actions si elles ne se rattachent en moi à rien de durable ni de constant. J'ai tué. C'est en vérité par hasard, si ça a été par une détermination toute isolée, toute détachée du reste de mon caractère, momentanée, et je suis infiniment peu responsable. Mais si toutes mes actions sont enchaînées, sont conditionnées les unes par les autres, dépendent chacune de toutes, si j'ai tué, c'est parce que je suis un assassin à tous les instants de ma vie, ou à peu près, et alors, oh, que je suis responsable. Notez que c'est bien ainsi que les juges prennent les choses, puisqu'ils recherchent si attentivement les antécédents de l'accusé. Ils le trouvent d'autant plus coupable qu'il a montré toujours des instincts mauvais. Donc ils le trouvent d'autant plus responsable qu'il a été plus nécessité? Oui. Donc Hume ne se croit pas fort clos en morale. Il ne croit pas qu'il lui soit interdit par ses principes d'en avoir une, et il en a une. C'est une morale de sentiment. Nous avons en nous l'instinct du bonheur et nous cherchons le bonheur. Mais nous avons aussi un instinct de bienveillance qui nous porte à chercher le bonheur général et la raison nous dit qu'il y a conciliation, ou plutôt qu'il y a concordance entre ces deux instincts. Parce que ce n'est que dans le bonheur général que nous trouverons notre bonheur particulier. L'école écossaise. Reid, Stewart. L'école écossaise, fin du XVIIIe siècle, a été surtout une école d'hommes qui se rattachait au bon sens et d'hommes qui étaient excellents moralistes. Il faut au moins nommer Thomas Reid et Dugald Stewart. Ils s'attachaient surtout à combattre l'idéalisme transcendant de Berkeley et le scepticisme de David Hume, aussi un peu la doctrine de la table rase de Locke. Ils reconstituaient l'esprit humain et même le monde, qui s'était comme volatilisé avec leurs prédécesseurs, à peu près comme ils étaient du temps de Descartes. Croyons à la réalité du monde extérieur. Croyons qu'il y a des causes et des effets. Croyons qu'il y a un moi, une personne humaine que nous saisissons directement et qui est une cause. Croyons que nous sommes libres et que nous sommes responsables parce que nous sommes libres. Ils étaient surtout très bons descripteurs des états d'âme, très bons psychologues moralistes, et ils sont les ancêtres de la très remarquable pléiade des psychologues anglais du XIXe siècle.